Chapitre 12. De l'autre côté du mur. Quand on habite une rue où toutes les maisons se touchent, il est intéressant de se figurer ce qui peut se faire et se dire de l'autre côté du mur. Sarah s'amusait souvent à imaginer ce qui se passait derrière le mur qui séparait la maison de Miss Minchin de celle du monsieur indien. Elle savait que la salle d'études était contiguë au bureau de celui-ci et espérait que le mur était assez épais pour que le bruit qui se faisait après les leçons ne le troublât pas. « Je m'intéresse à lui de jour en jour davantage, » dit-elle à Ermengarde. « Je l'ai adopté comme un ami, bien que je ne lui ai jamais adressé la parole, ce qui ne m'empêche pas de penser à lui, de m'inquiéter de lui, comme je le ferais pour un parent. Ainsi, je suis très inquiète quand je vois le médecin venir deux fois par jour. « J'ai peu de famille, » dit Ermengarde d'un air pensif, « et je ne le regrette pas, car je n'aime guère les parents que j'ai. Mes deux tantes me disent toujours, « Vraiment, Ermengarde, vous êtes bien grosse. Vous ne devriez pas manger autant de bonbons. » Quant à mon oncle, il me pose toujours des questions du genre de celle-ci.
« En quelle année, Édouard III, monte-t-il sur le trône ?»«
Ou,
quel personnage mourut d'avoir mangé trop de lamproie ?»
Sarah se mit à rire. « Je suis sûre que le monsieur indien ne vous en poserait pas de semblable, quand bien même il serait intime avec vous. En vérité, je l'aime beaucoup. »
Sarah s'était attachée à la grande famille, parce qu'elle paraissait heureuse, mais elle s'intéressait au monsieur indien parce qu'elle le sentait malheureux. On voyait bien qu'il n'était pas complètement guéri de quelque grave maladie, à la cuisine où, naturellement, les domestiques, par quels moyens mystérieux, étaient informés de tout, on discutait beaucoup à son sujet. Il n'était pas indien d'origine, mais un Anglais ayant vécu aux Indes. Il avait éprouvé de grands malheurs, et sa fortune avait été si menacée qu'il s'était cru ruiné et déshonoré pour toujours. Le coup avait été rude, et une fièvre cérébrale avait failli l'emporter. Sa santé en était restée ébranlée, bien que ses affaires se fussent relevées et que tous ses biens lui eussent été rendus. Ses ennuis avaient eu pour cause initiale une affaire de mine.
« Et de mine de diamants !» précisa la cuisinière. « Je ne mettrai jamais mes économies dans des mines, surtout dans des mines de diamants !» ajouta-t-elle, après un coup d'œil jeté à la dérobée sur Sarah.
« Il a éprouvé les mêmes souffrances, les mêmes revers que mon cher papa. Comme lui, il est tombé malade. Mais il n'est pas mort, » pensa Sarah.
Et elle se sentit encore plus portée vers lui qu'auparavant. Quand on l'envoyait le soir faire des commissions, elle s'en réjouissait à la pensée que peut-être les rideaux ne seraient pas encore tirés aux fenêtres de la maison d'à côté et qu'elle pourrait jeter un coup d'œil dans l'appartement, apercevoir son ami. Quand le square était désert, elle s'arrêtait parfois et s'appuyant à la grille, elle lui souhaitait le bonsoir comme s'il pouvait l'entendre.
« Peut-être votre cœur le sent-il, si vos oreilles ne le perçoivent pas, car les sentiments affectueux que l'on éprouve pour quelqu'un doivent pouvoir l'atteindre à travers portes, fenêtres et murs. Peut-être vous sentez-vous un peu consolé et réconforté, sans vous en rendre bien compte, au moment même où je suis ici, exposé au froid, et où j'exprime des vœux instants, afin que vous retrouviez santé et bonheur. » « Je vous plains beaucoup, » murmurait-elle, en y mettant tout son cœur, « et vous souhaite de trouver, vous aussi, une petite patronne qui vous dorlote comme je dorlotais mon cher papa quand il avait mal à la tête. Je serais heureuse même d'être votre petite patronne. Pauvre ami, bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse. »
Et elle s'éloignait, se sentant elle-même réconfortée et rassérénée. Sa sympathie était si profonde que certainement elle devait atteindre le pauvre malade assis au coin de son feu, enveloppé d'une grande robe de chambre, le front dans les mains et les yeux fixés mélancoliquement sur la flamme. Et Sarah se figurait qu'il n'avait pas seulement subi des chagrins dans le passé, mais qu'il éprouvait présentement de nouvelles et graves préoccupations.
Il a retrouvé sa fortune, et il est entré en convalescence. Il ne devrait donc plus avoir cet air de tristesse, à moins qu'il n'y ait quelque autre sujet d'affliction.
Elle pensait que le père de la grande famille, celui qu'elle avait surnommé Montmorency, devait le savoir, car il allait le voir souvent, et il en était de même de Madame Montmorency et de tous les enfants. Le malade semblait avoir une préférence pour les deux petites filles, Jeannette et Nova, celle-là même qui était si agitée l'autre jour où leur petit frère Donald avait mis ses 10 sous dans la main de Sarah. Jeannette et Nova lui rendaient son affection, et attendaient avec impatience les après-midi où elles allaient bien sagement lui rendre visite, visite toujours un peu cérémonieuse, en raison de l'état de santé du pauvre monsieur. « Nous tâchons de l'égayer, » disait Jeannette, « mais nous nous tenons bien tranquilles. » Jeannette était l'aînée. Aussi décidait-elle du moment où on pouvait, sans indiscrétion, lui demander qu'il leur contât des histoires des Indes, et c'était elle également qui jugeait du moment où il était temps de s'esquiver sans bruit, et d'aller avertir Ramdas de venir tenir compagnie à son maître. Elles aimaient bien Ramdas. Que d'histoires il aurait pu leur raconter, s'il avait su parler une autre langue que l'hindoustani. Le véritable nom du monsieur indien était monsieur Carrisford, et Jeannette conta à monsieur Carrisford leur rencontre avec la petite fille qui n'était pas une mendiante. Il y prit un très vif intérêt, surtout quand il apprit de Ramdas l'expédition du singe sur le toit. Ramdas lui fit un tableau saisissant de la mansarde et de son dénuement du plancher nu et des murs délabrés, de la grille rouillée et vide du foyer, du lit dur et étroit. « Mon cher Carmichael, dit-il à quelques jours de là, au père de la grande famille, combien de mansardes dans ce square ressemblent à celle-là, et combien de pauvres petites servantes habitent de tels taudis, pendant que je me tourne et me retourne sur mon oreiller de plumes harassé et écrasé par une opulence si grande et dont la majeure partie ne m'appartient pas. Mon cher ami, répondit Carmichael d'un ton encourageant, plus tôt vous cesserez de vous tourmenter, mieux ce sera pour votre repos. Si vous possédiez toutes les richesses des Indes, vous ne pourriez pas remédier à toutes les misères du monde. Et si vous commenciez à meubler toutes les mansardes de ce square, il vous resterait encore à meubler toutes celles des autres squares. Monsieur Carrisford resta immobile à regarder le feu. « Croyez-vous, dit-il lentement, qu'il soit possible que l'autre enfant, la petite fille à laquelle je pense sans cesse, puisse être réduite à vivre comme le pauvre petit être d'à côté ?» Monsieur Carmichael le regarda avec inquiétude, sachant qu'il n'y avait rien de plus funeste à la santé et au repos de son ami que cette pensée qui le torturait. « Si l'enfant qui était chez Madame Pascal à Paris était bien celle que vous cherchez, répondit-il pour le calmer, allez entre les mains des gens qui ont le moyen de prendre soin d'elle. Ils l'ont adoptée parce qu'elle était l'amie préférée de la fille unique qu'ils avaient perdue. Madame Pascal m'a dit que c'était des Russes très riches. Et cette malheureuse femme n'a même pas su dire où on avait emmené l'enfant, s'écria M. Carrisford. Intéressée et pratique, il est évident qu'elle ne fut que trop heureuse de se débarrasser de l'enfant à si peu de frais, après que la mort du père eût laissé la petite sans aucune ressource. Les femmes comme elle ne se préoccupent guère de l'avenir d'enfants, qui pourraient un jour leur être à charge. Les parents adoptifs disparurent, et ne laissèrent pas d'adresse. « Mais vous dites, si l'enfant était celle que nous cherchons ?»« Nous n'en sommes donc pas sûrs. Le nom n'était pas identique. » Madame Pascal le prononçait « Caro » et non « Crow », mais peut-être le prononçait-elle mal. À part ce détail, tout le reste coïncidait. Un officier anglais de l'armée des Indes avait placé sa petite fille en pension. Son père était mort après avoir perdu sa fortune, et la petite fille était déjà orpheline de mère. M. Carmichael s'arrêta un moment, comme si une nouvelle idée lui traversait l'esprit. « Êtes-vous bien sûr que l'enfant avait été mise en pension à Paris. Mon pauvre ami, répondit M. Carrisford avec amertume. Je ne suis sûr de rien. Je n'ai jamais vu ni l'enfant ni la mère. Ralph Crewe et moi étions amis d'enfance, mais nous nous étions perdus de vue jusqu'au jour où nous nous sommes retrouvés aux Indes. Je ne songeais qu'à mes mines, si pleines de promesses, et Ralph partagea mes espérances. Cette affaire s'annonçait si importante, si merveilleuse, que nous perdîmes tous les deux la tête. Quand nous nous rencontrions, nous ne parlions guère d'autre chose. Quant à l'enfant, tout ce que j'en savais, c'est qu'elle avait été envoyée en pension quelque part, Je ne me rappelle même pas dans quelles circonstances je l'appris. »
Il commençait à s'énerver, comme chaque fois que le souvenir des catastrophes passées venait troubler son cerveau encore affaibli. M. Kermichael observait anxieusement, et cependant, il avait à lui poser d'autres questions. Il fallait le faire avec calme et précaution.
« Mais vous aviez des raisons de penser que la pension était à Paris. »«
Oui, » répondit Carrisford, « parce que la mère de la petite fille était française, et j'avais entendu dire qu'elle désirait que sa fille fût élevée à Paris, ce qui est vraisemblable. »«
Oui, c'est en effet probable. »
Le malade se pencha en avant et frappa la table de sa longue main décharnée.
« Kermichael, » dit-il, « il faut que je la retrouve. Si elle est encore vivante, elle habite quelque part. Si elle est sans amis et sans le sou, c'est ma faute. Avec un tel poids sur le cœur, comment pourrais-je reprendre courage ? Mais la chance a tourné. La mine a réalisé nos rêves les plus fantastiques, et malgré cela, la fille de mon pauvre ami mendie peut-être son pain.
Calmez-vous et consolez-vous en pensant que, lorsque vous la retrouverez, vous aurez une fortune à lui remettre.
Pourquoi n'ai-je pas eu le courage de tenir bon quand tout marchait mal ?
Gémit Carrisford avec l'accent du désespoir. Je l'eusse fait s'il n'y avait eu que mon argent engagé dans l'affaire. Mais le pauvre Crew y avait mis jusqu'à son dernier sou. Il avait confiance en moi. Il m'aimait, et il est mort en croyant que je l'avais ruiné, moi, Tom Carrisford. Moi qui jouais au cricket avec lui à Eton. Quel gredin il a dû me croire.
Ne vous faites pas de si amers reproches.
Je ne me fais pas de reproches, parce que l'affaire menace à te sombrer. Mais parce que je perdis courage. Je me suis enfui comme un escroc et un voleur, pour ne pas avoir à me trouver en face de mon ami, et lui avouer que je l'avais ruiné, lui et sa fille. »
Le brave Kermichael posa sa main sur l'épaule de Carrisford avec un geste d'encouragement.
« Vous êtes enfui parce que votre cerveau était torturé, et que vous n'étiez plus qu'à moitié conscient. Si vous n'aviez pas été dans cet état, vous auriez lutté jusqu'au bout. » Vous êtes entré ensuite dans un hôpital. On a dû vous attacher dans votre lit, en proie à une fièvre cérébrale qui s'était déclarée 2 jours après votre fuite. Rappelez-vous. »
Carrisford laissa tomber son front dans ses mains.
« Grand Dieu, oui, » dit-il. « J'étais presque fou d'angoisse et de remords. Il y avait des semaines que je ne dormais plus. Et quand je sortais le soir, il me semblait que j'étais poursuivi par une foule hurlante.
Ceci n'explique-t-il pas tout ce qui est arrivé ?
Comment un homme, à la veille d'une fièvre cérébrale, eût-il pu juger sainement ? »
Carrisford secoua la tête.
« Et quand je redevins conscient, le pauvre Crew était mort et enterré, et je ne me rappelais plus rien. Je ne me souviens de l'enfant qu'après des mois et des mois, et encore très vaguement. »
Il s'arrêta un moment et se passa la main sur le front.
« Cette même impression persiste quand j'essaye de rappeler mes souvenirs. Assurément, Crew a dû me parler de sa fille et de l'école où il l'avait envoyée. Ne le croyez-vous pas ?»«
Il peut ne pas vous en avoir parlé d'une façon précise. Il semble même qu'il ne vous ait jamais indiqué son vrai nom.
Il avait l'habitude de la désigner d'un terme d'amitié qu'il avait inventé pour elle, la petite patronne. Mais cette maudite mine nous avait fait oublier tout le reste. Nous ne parlions que d'elle. S'il me parla de l'école, je ne m'en souviens plus, et ne m'en souviendrai jamais.
« Allons, allons, » dit Kermichael, « nous finirons bien par la retrouver. Continuons à rechercher les bons Russes de Madame Pascal. Elle avait la vague idée qu'ils étaient retournés à Moscou. Cette indication nous guidera. J'irai à Moscou.
Si j'étais en état de voyager, je vous accompagnerais volontiers. Mais je ne puis que rester ici, enveloppé de fourrure, à regarder le feu dans lequel je crois apercevoir la figure jeune et gaie de Crew qui me regarde et semble m'interroger. Je le vois même dans mes rêves, et debout, devant moi, il me pose toujours la même question.
Et laquelle ? Devinez, Kermichael. »
Monsieur Kermichael lui répondit d'une voix assez hésitante.
« Je ne sais pas trop. »
« Eh bien, » il dit.
« Tom, mon vieux. »
« Tom, où est la petite patronne ?»
Et saisissant la main de Kermichael, qu'il retint.
« Il faut que je puisse lui répondre, » dit-il. « Il le faut. Aidez-moi à la retrouver. Aidez-moi »
Tandis que ces paroles s'échangeaient, de l'autre côté du mur, Sarah, assise dans sa mansarde, disait à Melchizedek, qui était venu chercher son repas du soir, « Cela n'a pas été facile aujourd'hui d'être une princesse, mon pauvre Melchizedek. Cela a été plus dur que d'habitude. À mesure qu'il fait plus froid et que les rues deviennent plus boueuses, ma patience est mise à plus rude épreuve. Quand dans le vestibule Lavinia se moque de ma robe crottée, une répartie désobligeante me vint aux lèvres, prompte comme l'éclair. Mais je pus la refouler à temps. Je dus me mordre la langue. Quel froid il fait ce soir, Melchizedek. La nuit est glaciale. »
Soudain, elle laissa tomber sa tête dans ses mains, geste qui lui était habituel quand elle était seule.
« Oh, papa, murmura-t-elle, comme il y a longtemps que je n'ai pas été appelée la petite patronne. »
Et voilà ce qui se passa ce même soir de l'autre côté du mur.